malade.
7 milliards de voisins, Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans 7 milliards de voisins. La mort en mai 2020 à Minneapolis de l'Afro-Américain George Floyd, asphyxié par le genou d'un policier blanc, et les manifestations du mouvement Black Lives Matter qui ont suivi, ont relancé les débats sur la question raciale. Existe-t-il vraiment une pensée blanche, comme l'affirment des chercheurs britanniques, américains ou français ? Une pensée blanche qui distingue ou hiérarchise, inconsciemment ou pas, le blanc et le non-blanc ? Un déni blanc du privilège d'être blanc ? Un déni des catégorisation sociale héritée de l'esclavage et de la période coloniale. Peut-on être raciste sans le vouloir et même sans le savoir ? Si vous voulez témoigner ou poser des questions à nos invités, vous pouvez encore nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
On est plus semblables que différents.
Il faut tenir compte des voisins.
7 milliards, pour moi, c'est totalement vertigineux. 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Maboula Soumaoro, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l'Université de Tours, spécialiste de la diaspora africaine du monde atlantique. Vous avez publié en 2020 « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire » aux éditions La Découverte, un essai qui va sortir courant 2021 en anglais chez Politibooks. En ligne, en direct de Londres, Gauthier Marchais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institute of Development Studies de l'Université du Sussex en Grande-Bretagne et auteur d'un essai « Le déni blanc, penser autrement la question raciale » aux éditions de l'Aube.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une LUCAM. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Placide et Bukavu, République démocratique du Congo. Je pense que oui, il y a des gens qui peuvent être racistes sans les vouloir et même sans les savoir, d'autant plus que cette question est ancrée dans la mentalité, la culture de certaines personnes, blancs ou noirs, parce qu'ils ont été nourris aux sources des stéréotypes. Ils ont, dès leur jeune âge, été inculqués ou ont plongé dans une culture de tribalisme, de régionalisme, de xénophobie et de racisme. Parce que moi, je ne fais pas vraiment une distinction entre le racisme et autres mots comme le tribalisme, la xénophobie, le régionalisme, le communautarisme. Voilà, pour moi, je trouve que ce sont des concepts similaires, à quelques exceptions près.
Bonjour les voisins et les voisines. La pensée blanche est là, elle existe, parce que quand je prends l'exemple avec Donald Trump qui avait traité les pays d'Afrique que les pays de merde, ça veut tout dire en fait. Donc il y avait une pensée blanche et en même temps un côté raciste, parce que ce que Donald Trump avait dit, pour lui, bon, les Africains, c'est des non-blancs, donc ils peuvent me permettre de tout. Et avec tout ce qu'on peut imaginer de George Floyd et consorts, on va dire oui, la pensée blanche est là et le racisme également. On peut avoir les deux.
Ici Raphaël à Boston, Massachusetts. La question raciale me paraît surtout une question de rapport économique. Si les Noirs étaient en charge de leur pouvoir économique, alors la balance des choses serait penchée du côté des Noirs. Malheureusement, les Noirs n'arrivent pas encore à se remettre de leur léthargie, de leur sommeil. Mais il n'est que d'attendre, puisque le soleil doit revenir à l'horizon.
Je me nomme Mahman Adamou du Niger. Quelle différence faites-vous entre le racisme et le clanisme? Ensuite, ma seconde question, c'est de savoir, et le racisme est-il simplement lié à la différence de couleur ou peut-il avoir un lien avec la différence culturelle?
Maboula Soumaoro, est-ce que vous pouvez répondre à notre dernier auditeur, Mahaman, quelle différence entre racisme et clanisme?
Alors, moi, je n'aurais pas grand-chose à dire sur la question du clanisme. Est-ce que là, on est dans un contexte plus intrinsèquement africain et des structures politiques anciennes qui, sur la base, je ne sais pas, ethnique, sur la base religieuse, sur la base d'affiliation d'entités politiques anciennes, feraient que tel groupe voudrait avoir l'ascendant sur d'autres groupes, c'est-à-dire en conversation, mais aussi en opposition avec des organisations sociales, ethniques, politiques et religieuses qui précéderaient l'établissement des nations-États qui existent aujourd'hui en Afrique. Si on remonte par exemple à 1885 et la conférence de Berlin et la partition du continent africain entre puissances dominantes européennes, on voit bien qu'il y a eu une sorte de remaniement organisationnel des entités politiques. Donc est-ce que depuis cette, on va dire... cet aspect artificiel des nations telles qu'elles sont devenues
et
des frontières à partir des années 50 et 60. Voilà, est-ce que en regroupant des territoires de la sorte, est-ce qu'on n'aurait pas encouragé une sorte de clanisme ? Peut-être que c'est les simples mots que je pourrais dire. Après, le racisme, dans la manière dont moi je l'approche, me sort un peu plus du continent africain. Moi, je m'intéresse à la diaspora et aux diasporas. Et donc là, on est vraiment dans des constructions historiques très précises qu'on peut dater. On parle de l'ère moderne en histoire, c'est-à-dire la période des grandes découvertes, la période où les puissances européennes de l'époque, donc au départ le Portugal et l'Espagne qu'on oublie, se lancent dans des projets coloniaux à travers le monde et notamment les Amériques. À partir de là et dans ce moment fort que constitue la traite négrière transatlantique et l'institution de l'esclavage qui repose sur des constructions raciales, c'est là qu'on entre dans cette question du racisme tel qu'on la traite aujourd'hui.
Voilà. Oui, Maman se demandait encore, le racisme est-il lié à la différence de couleur ou à la différence de culture ?
Je pense que à la base, dans cette ère moderne, on a vraiment été témoin de la construction d'identité noir-blanc, pour rester vraiment simpliste. Ça peut être daté. Avant, dans l'histoire, les populations ne se définissaient pas ou ne se catégorisaient pas sur la simple apparence physique. Ça, c'est la nouveauté. Et après, bon, la culture, oui. Enfin, la culture, le régime alimentaire, la religion, l'ethnie. Les êtres humains, à travers l'histoire, ont été très créatifs dans les processus de catégorisation et de racialisation. Donc oui, la culture peut compter, mais aujourd'hui, c'est pas de la culture dont on parle.
Gauthier Marchais, pour Raphaël, notre troisième auditeur, la question raciale paraît surtout une question de rapport économique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je pense que le rapport économique est très important, absolument. Ensuite, le rapport économique n'existe pas indépendamment en fait des rapports politiques et indépendamment en fait de cette histoire justement de la colonisation et des empires européens qui ont en fait mis en place certains rapports économiques qui ont continué au-delà des empires en fait. Donc les inégalités économiques qui existent au niveau mondial sont aussi héritées en fait de cette période impériale européenne. Donc je pense qu'il faut absolument les penser, il faut absolument les adresser, mais il faut aussi les regarder dans le temps long, c'est-à-dire aussi de ces héritages des empires européens et de ces inégalités au niveau mondial.
On va revenir tout à l'heure aux questions des auditeurs, mais je vous propose maintenant d'écouter Pascal Bruckner. L'écrivain a été l'invité de Sud Radio le 7 décembre dernier pour son livre « Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc » chez Grasset. Je vous ferai réagir juste après.
La caractéristique française, c'est de ne pas tout ramener à la couleur de peau, contrairement aux États-Unis. Je trouve que sur ce plan-là, nous sommes beaucoup trop obsédés par le modèle américain et nous ne savons pas revenir à nos valeurs républicaines, qui sont des valeurs universelles et pour qui la couleur de peau, l'origine, la croyance sont inessentielles. Je pense qu'effectivement, nous sommes passés d'une idéologie tiers-mondiste qui considérait l'Occident comme étant l'oppresseur du monde pour des raisons politiques et économiques à une idéologie racialiste où alors on fait de l'homme blanc dans sa totalité le coupable parfait de tout ce qui va mal dans le monde, au moment même où ceux qu'on appelle les blancs, entre guillemets, sont démographiquement moins nombreux que d'autres, et surtout au moment où le rôle de l'Europe et des États-Unis décline dans le monde. Et je trouve qu'il y a là un appauvrissement du discours et surtout un retour à ce que nous avons bien connu en Europe dans les années 30, c'est-à-dire l'obsession de l'épiderme, l'obsession de la race, la réduction des êtres humains à leurs conditions de naissance, à leur couleur de peau. À partir du moment où on réduit les individus, hommes ou femmes, à leur couleur de peau, au lieu d'envisager leurs conditions sociales, leur position de pouvoir, ils sont coupables d'être, tout simplement, d'être nés, et alors on rétablit quelque chose qui ressemble beaucoup au péché originel. Regardez par exemple le dernier livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, qui oscille constamment entre la condamnation de ce qu'il appelle la pensée blanche, c'est-à-dire le colonialisme, l'impérialisme, l'esclavagisme, et puis les blancs en général, qu'il synthétise en une seule formule, comme si tous les blancs étaient coupables d'être nés tels. Or, ça, c'est la définition même du racisme. Mais ça n'est pas la peine, au nom d'antiracisme, de reproduire les défauts qui existait déjà auparavant. Ce que j'étudie là, c'est un discours qui a été importé des États-Unis et qui a trois aspects. L'aspect néo-féministe, donc l'homme est coupable par nature, c'est un tueur de par son anatomie, qui donc, quoi qu'il fasse, même lorsqu'il veut être bon avec les femmes, les agresse et les violente. Ensuite, c'est l'homme et la femme blanche qui sont coupables d'être tels. Et puis, dans le discours décolonial, ce qu'on explique, c'est qu'il faut décoloniser l'Europe de l'intérieur pour qu'elle disparaisse petit à petit, puisqu'elle n'expiera jamais assez le péché du colonialisme.
Maboula Soumaoro, je vous vois esquisser une moue, désolée. Qu'est-ce que vous répondez à Pascal Bruckner quand il affirme qu'on a importé des États-Unis un discours racialiste où l'homme blanc est le coupable parfait de tout ce qui va mal dans le monde?
Je suis tellement affligée quand j'entends ce genre de paroles et qui pour moi sont un ensemble de déni, des négations et même de négationnisme. Parler de l'importation de concepts états-uniens est une approche simpliste qui m'étonne de la part de Pascal Bruckner, parce que je crois savoir qu'il a enseigné aux États-Unis et qu'il y a vécu. Donc soit il ne connaît pas le pays ou il ne s'y est pas assez intéressé, il ne s'est pas assez intégré. J'ai l'impression pour commencer, quand on parle des universités américaines, dire qu'il y a une pensée qui est produite et qui serait strictement états-unienne, cela est faux, puisque au sein de l'université aux États-Unis, on trouve le monde entier. Donc beaucoup de pensées, de théories, de concepts, de travaux sont produits par des personnes qui ne sont pas obligatoirement états-uniennes. Des Français enseignent aux États-Unis, des personnes issues du continent africain ou du continent asiatique, de la Caraïbe. Donc parfois, il y a des concepts qui émanent de personnes qui ne sont même pas de nationalité états-unienne. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, dire qu'on importe depuis les États-Unis des concepts qui nous renverraient à la France des années 1930, ben là, j'ai un problème de chronologie, j'ai un problème de datation historique. Quand on parle de 1930 et quand on parle vraiment de la flambée antisémite qui va monter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et qui va mener à l'horreur de la Shoah, il faut bien savoir que depuis le XVIIe siècle, la France est dans le monde. Et la France, en tant que puissance impériale, comme vient de le rappeler Gauthier Marché, a mis en place des structures qui sont fondamentalement racistes. Quand on parle du racisme, on ne parle pas d'essence. Il ne s'agit pas d'être blanc ou d'être noir. Il s'agit d'action. Ce n'est pas être raciste, c'est produire du racisme, organiser le monde sur des bases racistes. C'est pas l'essence. Personne, en tout cas, de sensé n'utilise le terme de être blanc ou être noir, c'est agir de façon blanche. Et donc voilà, enfin c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais c'est le propos était tellement riche et tellement affligeant, tellement incroyable. Et vraiment, c'est du négationnisme. L'histoire ne commence pas en 1930. Au-delà de l'explosion raciste, antisémite, connue par l'Europe en 1930, il s'était passé d'autres choses à travers le monde. Et c'est là qu'il est intéressant de sortir de l'hexagone et de s'intéresser dans les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, qu'ils soient actuels ou anciens. C'est-à-dire, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, même la Polynésie française. Ça, ce sont les territoires qui font partie de la République française aujourd'hui. Mais il y avait aussi d'autres territoires qui sont devenus indépendants depuis et dans lesquels la gestion raciste et la gestion racialiste a eu lieu. Des catégories gérées juridiquement par un code différent, le code de l'indigénat. Être un musulman, ça a été comment dire, ça a été une catégorie juridique. Ne pas être blanc, ne pas être chrétien, ne pas être entièrement français. Ça, c'est une histoire française qui s'est déployée en dehors de l'Hexagone, donc qui nous arrange bien parfois quand on veut avoir une vision limitée et très étroite de l'histoire française. Mais là, je crois que j'ai beaucoup parlé. Excusez-moi, Chantal.
C'est pas grave. Gauthier Marchais, vous avez entendu Pascal Bruckner. Est-ce qu'on est dans ce que vous appelez le déni blanc ?
Je pense dans son cas, oui, et je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Maboula Soumaoro. Je pense d'abord que cette idée aussi qu'il s'agit d'une importation anglo-saxonne, elle est complètement fausse. Déjà, c'est une vision assez essentialisée du monde anglo-saxon qui est très différent. Hein. L'Angleterre, c'est très différent des États-Unis. Et en fait, la réflexion sur la question raciale, c'est une réflexion qui est mondiale en fait, parce que les empires européens et les régimes d'inégalités raciaux mis en place par les empires européens ont une portée mondiale du fait de la portée mondiale des empires européens. La réflexion sur cette question, en fait, est une réflexion qui est au niveau mondial. Et on peut prendre, je sais pas, l'exemple des grands penseurs, enfin des penseurs de cette question. Je vais pas les lister, mais Gayatri Spivak est indienne, Walter Mignolo est argentin, Achille Mbembe est camerounais. Donc c'est une pensée de la question raciale qui est une pensée mondiale, qui n'est absolument pas une pensée strictement américaine ou anglo-américaine. Et dire ensuite que la race serait importée en France par ce biais anglo-saxon, c'est un peu comme dire que la classe a été importée en France de l'Allemagne et de l'Angleterre parce que Karl Marx était allemand et qu'il a travaillé sur l'Angleterre. Donc ça n'a pas de sens. Et en fait, la race en fait est née, la race comme concept d'organisation des populations est née en partie en France. Donc il y a toute une histoire française de la race et ensuite toute une réflexion française et francophone de la race. On peut penser bien sûr à Aimé Césaire, à Frantz Fanon, on peut penser à toutes les personnes qui travaillent sur la question raciale dans les universités françaises, dont Maboula Soumaoro, Elsa Dorlin, Pape Ndiaye. Encore une fois, je ne vais pas lister, mais l'idée que ce serait une importation américaine, en fait, pour moi, n'a aucun sens. Par contre, donc, pour répondre à la question, oui, je pense qu'on, en tant que blanc, on hérite d'un certain rapport au monde qui a été construit à travers l'impérialisme européen. Et que c'est ce rapport au monde, en fait, qui provoque tout un tas de formes de déni, de dénégation, de silence autour de cette question, parce que c'est une question qui est problématique, parce qu'en fait, elle met à mal un peu l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes, en fait, en tant que blancs. Et l'idée, en fait, c'est de regarder cette histoire en face, de regarder la façon dont elle a structuré notre rapport au monde, et essayer de savoir si on peut essayer de changer, peut-être, dans une certaine mesure, ce rapport au monde. Il ne s'agit pas de se sentir éternellement coupable, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt d'essayer de comprendre le rôle que joue cette question-là dans le monde aujourd'hui, pour comprendre le monde et pour vivre dans ce monde avec nos 7 milliards de voisins, et aussi nous comprendre nous-mêmes. Voilà.
Vous finirez seuls et vaincus, sourds aux palpitations du monde, à ces hoquets, ces hauts, ces bas, ces haussements d'épaules veulent, recensement des ossements qui tapisse le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir et de ces temps itinérants où, devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien. L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en-dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits-enfants chatoyants. Vous finirez finirait seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé.
Why you holding on to the apples? Holding on to what you know? We won't make the same mistakes. Stakes are how we clean my face. Why you holding on to the apples? Holding on to what you know? We won't make the same mistakes. Stakes are how we clean. Why you holding on to your breath? Holding on to let you know. We won't make the same mistakes. Stakes are how we clean my pain.
Vous finirez seuls et vaincus.
Seuls et vaincus, Gaël Faye et Mélissa Lavaux sur RFI, un texte signé Christiane Taubira. Vous écoutez 7 milliards de voisins, existe-t-il une pensée blanche? Comment penser la question raciale quand on est blanc? Peut-on être raciste sans le vouloir et sans le savoir? On continue d'en discuter avec Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone à l'université de Tours, et Gauthier Marchais, enseignant-chercheur à l'université du Sussex en Grande-Bretagne. Vous pouvez encore nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Maboula, est-ce que le texte, les mots de Christiane Taubira vous touchent ?
Oui, il me touche comme d'habitude, puisqu'il y a la verve et la prose donc de Christiane Taubira, qu'on connaît déjà. Et là, cette vision du monde, cette compréhension du monde actuel et à venir me touche. Et je l'espère aussi, ce monde où ceux qui sont concernés seront seuls et vaincus, et aura émergé une nouvelle approche du monde, des nouvelles populations qui peut-être se regarderont différemment et pourront interagir de manière différente. Donc ça, c'est à souhaiter.
Christiane Taubira, qui a reçu des tombereaux d'injures racistes quand elle était garde des Sceaux, a déclaré récemment « Je m'interdis d'en souffrir. Il est hors de question que cela m'affaiblisse et que j'en ressente de la peine. Je ne suis pas une victime, je suis de plus en plus forte. » Est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles?
Alors peut-être que j'aurais une... Non, je pense avoir une position différente. Je reçois moi-même énormément de courriers racistes et d'attaques sur les réseaux sociaux, mais aussi en physique, en vrai, des personnes qui prennent le temps d'envoyer des lettres. Et je ne me considère pas comme une victime, mais je tiens à dire que cela peut perturber, peut blesser et peut déranger. Et je n'ai pas envie, par contre, moi, dans mon cas personnel, de faire comme si ce n'était rien. Il faut que cela soit su, que cela soit combattu et que cela soit décrié. Ça ne me renforce pas, ça me fatigue, ça m'épuise. Ça me dérange, oui. Ça trouble mon confort et j'ai droit aussi au confort.
On va repartir au standard où nous attend Aloïse, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour aux voisines et aux voisins.
Vous nous appelez de Kananga en RDC. Est-ce que vous êtes d'accord, Aloïse, avec cette idée d'une pensée blanche qui distingue ou hiérarchise inconsciemment ou pas?
Très d'accord, madame. À mon avis, je pense que cette pensée blanche qui hiérarchise ou distingue avec ou sans conscience existe bel et bien dans cette communauté mondiale stratifiée en des grandes sphères dont le nord composé des riches et le sud qui est constitué des pauvres. Vous en doutez, je suis parti de l'idée de la colonisation où on a vu que les blancs ont à tout prix cherché à être au-dessus des Noirs parce que leur ayant apporté tout ce qui est occidental, leur ont demandé de pouvoir l'adopter afin de fouler aux pieds tout ce qui est de la culture de l'Afrique noire. Qualifié par les Blancs donc comme une culture d'indigène, comme une culture primitive ou une culture qui est de moindre valeur. Bref, dans tout ça, je pense, à mon avis, qu'il y a une culture d'injustice caractérisée par les complexes de supériorité et d'infériorité qui s'imposent et qui tient presque dans tous les rapports que l'Occident est en train d'entretenir avec l'Afrique noire. Non seulement ça, cela est en train de transcender dans presque tous les domaines. Malgré le fait qu'il y a quand même une certaine limitation aussi au niveau de certaines lois ou de certaines législation qui voudrait assez qu'on puisse privilégier le principe d'égalité à tous les niveaux, qui voudrait assez qu'on ne puisse pas assister à une culture de domination des uns par rapport aux autres, madame.
Mais vous pensez que le complexe de supériorité des Blancs et le complexe d'infériorité des Noirs existent toujours ?
Ça existe au point que cela va même dans différents domaines. Il n'y a pas que les Blancs et les Noirs, même entre Africains et même vous allez dans les domaines politiques, vous allez dans les domaines religieux. Ce complexe-là existe et c'est une culture qui est déjà plantée pourvu que, à tout prix, le racisme puisse avoir lieu.
Merci beaucoup, Aloïs, pour ce témoignage. Gauthier Marchais, vous avez vécu et pas mal voyagé en Afrique, notamment en RDC, justement, d'où nous appelle Aloïs. Et cela donne dans votre livre des pages aussi savoureuses qu'impitoyables sur les expatriés, les expats, terme utilisé par les migrants blancs, écrivez-vous, pour se distinguer des autres migrants. Pourquoi êtes-vous aussi sévère avec les humanitaires ? Est-ce que vient de dire Aloïs ? Est-ce que ça trouve écho à votre expérience quand vous avez séjourné du côté de Bukavu.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Loïs. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Oui, en fait, je pense que le cadre humanitaire ou ce type de cadre-là est particulièrement compliqué parce qu'il y a l'opposition, entre guillemets, de deux mondes, c'est-à-dire un monde de privilèges blancs et un monde qui est marqué à certains égards par beaucoup de difficultés dans un contexte comme celui de l'Est congolais. Ensuite, l'idée, c'est pas de dire tous les expats sont des racistes, etc. C'est plutôt d'essayer de trouver ou de désigner ce qu'il y a de survivance, justement, d'un complexe de supériorité, comme le disait Aloïs. Et c'est vraiment ce complexe de supériorité qui est problématique, je trouve, et qui, en fait, est hérité effectivement de toute cette histoire coloniale, impériale, etc. Mais qui pour les Blancs, en fait, je pense, est une sorte de défaut d'humanité. Et c'est quelque chose qui a été souligné depuis longtemps. Et je pense qu'il faut sortir de ça, en fait, pour revenir ou pour arriver à notre humanité. Et ce sont effectivement des choses qui se jouent dans des zones comme l'Est de la RDC, où, disons, il y a tout le complexe industriel, en quelque sorte, des ONG internationales, etc., et où il y a toujours des inégalités à caractère vraiment racial, en fait. Si on regarde la hiérarchie, par exemple, dans les ONG internationales ou d'autres types de hiérarchie, il y a toujours des sommets blancs, comme on dit, c'est-à-dire une composante racialisée des hiérarchies professionnelles et économiques et sociales dans ce type de milieu. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire tous les Blancs qui sont dans ces contextes-là sont racistes. D'ailleurs, ils en sont souvent assez conscients, hein, de ces contradictions, mais de montrer en fait que cette question-là continue aujourd'hui, qu'elle est toujours très réelle, très importante.
Maboula, vous êtes d'accord ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gauthier Marchais et ce qui a été dit, énoncé auparavant par cet auditeur. La question raciale, en fait, elle structure les sociétés modernes les sociétés depuis cette ère moderne. Elle est structurante. Et souvent, l'une des erreurs fréquemment commises est de croire que quand on parle de race, on ne parle pas de classe, qu'il faudrait choisir entre l'analyse sociale et l'analyse raciale. Alors que la race englobe la question de la classe sociale. Alors que souvent, dans les analyses sociales, on a été capable, à travers l'histoire, de laisser de côté l'aspect racial. Donc souvent, c'est un des reproches qui est fait à des analyses qu'on définit comme racialistes, et je ne sais pas du tout ce que ce terme veut dire. Mais en tout cas, la race permet de couvrir plusieurs domaines des structures de nos sociétés, en vérité. Si on parle d'expatriés, par exemple, en RDC ou en Afrique, on parle évidemment de blancs, mais aujourd'hui il pourrait, puisqu'il n'y a pas que des Français blancs, des Français non blancs pourraient être expatriés en Afrique ou ailleurs. Et donc ces personnes-là, blanches ou non blanches, sont souvent, à cause de l'histoire, des blancs, de toute façon pour commencer, et sont des blancs riches. Si on parlait d'une immigration de blancs pauvres, la question se poserait de manière différente. Donc la race et la classe marchent ensemble, comme avec le genre, avec la sexualité ou l'orientation sexuelle. Il y a plein de choses qu'on peut ajouter à ces analyses.
On va retourner au standard où nous attend Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Chantal.
Vous êtes tchadien, étudiant en littérature française et vous nous appelez de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Emmanuel, qu'est-ce que c'est le racisme pour vous ?
Effectivement. Pour moi, le racisme, c'est le sentiment de rejet qu'on a pour une personne dès le premier contact. C'est-à-dire le physique de la personne, sa manière de faire les choses. On dit souvent en Afrique que la tête de telle personne ne me plaît pas, juste parce que vous n'êtes pas éduqué de la même manière. Secondo, si le racisme noir-blanc persiste, c'est parce que nous avons l'habitude de représenter ce qui est positif par la couleur blanche et ce qui est négatif par la couleur noire. Par exemple, dans le film biblique ou religieux, Jésus est blanc et Satan est noir. La paix est symbolisée par le blanc et la mort par le noir. Voilà ce qui bloque tout. Et à mon niveau, je propose, on doit revoir les choses, sinon on est tous racistes. On doit s'accepter, nous respirons tous de la même manière. Merci.
Merci beaucoup Emmanuel. Maboula Soumaoro, ce que vient de dire Emmanuel fait un peu froid dans le dos. On utilise le blanc pour montrer ce qui est positif et le noir quand c'est négatif. Est-ce que ces deux couleurs associées au positif et au négatif, pareil, il faut remonter à l'esclavage pour en trouver l'origine ?
Oui, je pense qu'il y a eu une construction, des constructions identitaires qui se sont posées de manière diamétralement opposée. Le blanc et le noir sont des identités opposées. Le beau, le laid, le riche, le pauvre, l'homme, la femme même. Voilà, donc il y a toutes ces dichotomies qui existent effectivement. Mais moi, j'aurais une petite nuance à apporter au propos d'Emmanuel. Je ne sais pas si cela est si utile de dire que tout le monde est raciste. C'est pas tellement la question d'être raciste, c'est d'avoir le pouvoir d'être raciste. Si on aborde la question du racisme en se disant telle personne n'aime pas telle personne, en soi, ça peut ne pas être une question et ça peut être une simple affaire de goût. La question qui compte est la question politique. Qui n'aime pas telle personne et se trouve en position de recruter quelqu'un, de donner un travail à quelqu'un, de donner de l'argent, de donner un logement, d'apporter des soins. C'est là que se pose la question de la hiérarchie et de la capacité de nuisance à d'autres êtres humains. Être raciste, encore une fois, c'est pas ma question, ça ne sert à rien. C'est parce que ça pose la question en termes moraux et la question du racisme n'a rien de moral. En fait, c'est une question éminemment politique.
Alors, on a aussi une question sur Facebook. Mobali nous écrit de Goma, toujours en RDC. Pourquoi en France, les personnes noires et arabes, donc entre guillemets, sont-elles contrôlées 6 à 8 fois plus que les personnes de peau blanche ? Qui veut répondre ? Gauthier Marchais, Maboula. Gauthier ?
Oui, bah, je pense que c'est vraiment l'héritage justement du racisme en Europe qui explique cela et les questions de racisme structurel. Je voulais juste revenir sur la question de la xénophobie qui, je pense, existe dans beaucoup de sociétés et peut-être dans toutes les sociétés, c'est-à-dire une distinction entre eux et nous et différentes formes de xénophobie et parfois différentes formes de hiérarchie. Il n'y a pas seulement la xénophobie à l'européenne et la question raciale à l'européenne, mais je pense que la particularité en fait de la race, c'est-à-dire d'une idéologie plus grande, elle naît dans un contexte impérial. C'est quand il y a des empires qu'il y a vraiment des conceptions raciales du monde qui se mettent en place. Pas seulement dans les empires européens, on peut penser, je sais pas, à l'empire Inca ou aux empires japonais, mais la particularité et l'importance de comprendre cette question-là dans le contexte des effets des empires européens, c'est que ces empires européens ont eu une portée mondiale et ont existé pendant très longtemps. C'est pour ça que c'est important d'y penser dans ce cadre-là. Et je pense que ça continue de se manifester dans la société française aujourd'hui vis-à-vis de ces questions de violence structurelle vis-à-vis de la police. Et que donc ça reste une question très présente aujourd'hui, et que parler de la question raciale, contrairement à ce que disait Pascal Bruckner, c'est pas une façon de réinstaurer ces distinctions raciales. En fait, c'est un peu comme si on disait parler de la guerre, c'est faire la guerre. Non, si on veut parler de la violence ou parler de la guerre pour essayer de la résoudre en quelque sorte, ça veut pas dire qu'on est pro-guerre. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, c'est justement parler du problème.
L'image d'une France non raciste parce qu'héritière des Lumières, c'est une construction, Maboula Soumaoro.
Si on replace les Lumières et la philosophie, tous les concepts élaborés par les Lumières, on parle du XVIIIe siècle. Et de ce XVIIIe siècle est le siècle le plus intensif dans l'histoire de la traite négrière transatlantique. C'est au XVIIIe siècle que le plus grand nombre de personnes esclavisées africaines ont été déplacées du continent africain vers les Amériques. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On ne peut pas se prévaloir des Lumières qui ont existé au XVIIIe siècle à un moment où et la traite négrière et l'institution de l'esclavage étaient appliquées comme jamais. Donc c'est... Vraiment, c'est un peu drôle et c'est un peu absurde tous ces arguments qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement, ni historique, ni politique, ni culturel. Au XVIIIe siècle aussi, il y a eu l'établissement de la police des Noirs dans la France hexagonale. C'est-à-dire que les personnes noires, souvent des esclaves qui accompagnaient leurs maîtres et maîtresses dans l'Hexagone, devaient être contrôlés. Il fallait savoir où ils se déplaçaient, ce qu'ils faisaient. Enfin, donc c'est le XVIIIe siècle aussi. C'est tout. La France, elle a une grande histoire qui est pleine de paradoxes. Comme toutes les histoires de toutes les nations du monde, mais il faut les regarder en face. Et comme vient de le dire Gauthier Marché, c'est accepter de les regarder en face. Et les regarder en face ne veut pas dire en être obsédé, mais peut-être avoir vraiment le souci de vouloir régler ces problématiques, puisque ce sont des problématiques et pas autre chose. C'est un problème, le racisme est un problème.
Je vous propose d'entendre un autre témoignage d'auditeur sur WhatsApp cette fois.
Bonjour à tous, je m'appelle Bona, je suis de la Mauritanie, le pays où il y a les Haratins, les descendants d'esclaves. Et il m'arrive souvent de rencontrer des cas de racisme patent. Parfois, je suis avec des amis blancs, nous rencontrons l'heure de leurs amis et ils leur tendent la main, ils les saluent et moi, ils m'oublient, ils ne me voient même pas. Si l'occasion se présente, je vais lui expliquer que ce geste est on ne peut plus raciste. Et j'essaie de ne pas parler avec le ressentiment, ou bien le moins de ressentiment possible, et avec le plus de pédagogie possible. Parce que le racisme, parfois, il y a beaucoup qui ne se rendent même pas compte qu'ils posent des actes racistes. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de prendre sur soi et d'essayer de corriger les œillères de certaines personnes qui ne se considèrent pas comme racistes, et pourtant, elles le sont.
Et en écho, Alexis de Nouakchott nous écrit sur Facebook « Oui, on peut être raciste sans le savoir. Nous vivons le racisme ici en Mauritanie de la part des Maures, qui n'aiment pas les Noirs parce qu'ils les considèrent comme leurs esclaves. Nous, les Noirs, sommes criblés d'injures en Hassania, une langue locale qui est similaire à l'arabe. » Maboula, je reviens à la question que je posais au début de cette émission. Peut-on être raciste sans le vouloir et même sans le savoir ?
Bien sûr, et c'est ça le privilège. C'est ce qu'on appelle le privilège blanc. À ne pas avoir à se poser certaines questions. Tous les mécanismes qui se mettent en place une fois qu'on se trouve face à un corps différent. Donc l'exemple qui vient d'être donné par l'auditeur via WhatsApp me semble très intéressant, puisqu'il parle d'une scène où il est face à des blancs et certains blancs vont le voir, le saluer, et d'autres blancs ne vont pas le voir ni le saluer. Et ça veut dire quoi ? Si ce n'est le regard porté sur la signification tellement modelée par l'histoire de son corps qui renvoie à la figure de l'esclave, à la figure de la personne inférieure ou la figure de la personne presque invisible qu'on peut ignorer. C'est ça le racisme. Donc bien sûr qu'il y a des mécanismes inconscients qui produisent des actions qui par contre sont bien réelles et bien vécues par les personnes qui les reçoivent. Donc encore une fois, je suis désolée, je vais m'opposer un petit peu à cet auditeur qui nous a parlé sur WhatsApp. Moi je ne suis pas du tout, enfin je ne prône pas du tout le fait de prendre sur soi. Moi je considère que c'est ce qui participe de la charge raciale, c'est-à-dire il y a les personnes qui sont déjà ciblées ou qui doivent gérer ces situations difficiles ne sont pas les personnes qui devraient seulement expliquer, je sais pas moi, faire preuve de pédagogie. C'est beaucoup d'énergie pour les mêmes personnes. Ce souci d'éducation, ce souci, je sais pas moi, d'explication, même si je peux en comprendre la logique, il demande beaucoup aux personnes qui sont déjà défavorablement racialisées. Donc oui, le privilège blanc, c'est ça, ne serait-ce que de ne pas avoir à se poser de questions sur rien du tout.
Gauthier Marchais, à quel âge et dans quelles circonstances vous êtes-vous rendu compte que vous étiez blanc et que cela vous conférait un statut particulier ?
C'est une bonne question parce que ça a été un processus assez long en fait. Très tôt en fait, j'ai pas grandi dans un milieu intégralement blanc, très tôt je me considérais antiraciste, etc. Mais en fait, le fait de se considérer antiraciste, souvent ça permet de pas se poser la question justement de comment en fait la question raciale structure aussi notre vision du monde en tant que blanc. Et j'appelle ça en fait la maison blanche. J'utilise une image, la maison blanche, qui est une sorte de rapport au monde, une sorte de disposition au monde qui se décline sur le plan intellectuel, social, affectif, qui est en fait l'héritage justement de ce rapport impérial au monde et de ce complexe de supériorité, et qui est aussi caractérisé par le fait qu'on ne voit pas justement la question raciale, comme le disait Maboula Soumaoro, qu'on ne la voit pas en fait. Et c'est quelque chose qui a été vraiment progressif, parce que quand je suis arrivé en Angleterre, je pensais que, il y a une dizaine d'années, je pensais que j'étais assez aguerri sur la question, je donnais un peu des cours sur ces questions-là, etc. Et c'est en parlant avec des amis indiens, notamment, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais toujours dans un point de vue extrêmement marqué, en fait, par l'héritage de cette histoire, et par le fait que je suis non seulement blanc, mais aussi un homme, et aussi d'un milieu relativement aisé, etc., et que ça continuait à structurer mon rapport au monde. Donc, en fait, ça a été une prise de conscience progressive, mais qui continue aujourd'hui, parce que je pense que j'ai encore beaucoup d'angles morts vis-à-vis de cette question. Donc quelque chose qui s'est joué sur des années et des années, en fait.
Maboula, où est-ce que vous placez le curseur du racisme ? Vous racontez par exemple que si on invite Rokhaya Diallo sur un plateau télé, on ne vous invitera pas parce qu'on estime qu'une seule femme noire suffit. Ou encore qu'il vous arrive d'être confondu avec une autre personnalité, une autre intellectuelle noire.
Oui, ça c'est commun. Je vais saluer Rokhaya Diallo. Je lui dis souvent que je suis sa remplaçante. Donc le fait de ne pas pouvoir inviter deux femmes noires simultanément sur un plateau, ça veut dire qu'il y a une vision assez totalisante de cette identité ou de ces corps noirs qui ferait que voilà, si Rokhaya Diallo est là et présente, ben Maboula Soumaoro va dire à peu près la même chose, ce sont les mêmes, elles sont interchangeables. C'est ça l'interchangeabilité, le fait de confondre. Moi souvent j'en parle dans le livre, à un moment quand elle était très à la mode, c'était Ramayad. Moi et Ramayad c'est la même chose. Plus tard, il y a eu une mise à jour, je suis devenue Sibeth Ndiaye. Voilà, donc c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes d'individualisation ? Parce que le racisme, c'est ça avant tout, c'est le déni d'individualité. Chaque corps, chaque personne perçue, quand elle est défavorablement racialisée, appartient à un groupe et n'existe pas en tant que tel. Et donc, en fait, il faut aussi comprendre le racisme comme une... Oui, peut-être un déclin d'humanité, je crois que tout à l'heure Gauthier Marché en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a une humanité pleine et entière qui est l'humanité ou l'identité blanche. On a le droit d'être homme, femme, hétéro, homo, riche, pauvre, triste, heureux, beau ou laid. Et quand on appartient, et ça c'est le groupe racialisé également, mais favorablement, donc qui jouit d'une humanité pleine et entière. Et une fois qu'on est dans un groupe, qu'on appartient à un groupe défavorablement racialisé, ben là, plus rien ne compte. On fait partie du groupe, qu'on soit heureux ou triste, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit homme ou femme, ça ne compte presque pas. Moi, on m'a déjà appelé en public avec un nom masculin, par exemple. On m'a déjà appelé Mamadou, tellement j'étais noire et que c'est un corps noir qui est là. Et donc, ça ne comptait même plus le fait que je sois une femme cisgenre. Donc, c'est ça dont je parle quand je dis qu'on peut me confondre. Ça veut dire qu'on ne me voit pas, que je n'existe pas en tant que personne. Et c'est ça le racisme, c'est l'effacement de l'individualité aussi.
Gauthier Marchais, comment on peut sortir de cette maison blanche dont vous parliez tout à l'heure ?
Alors en fait, je pense que c'est un processus long. C'est pas juste une prise de conscience de cette question qui serait suffisante.
Mais est-ce qu'il a commencé ce processus suite, par exemple, aux manifestations qui ont suivi l'affaire George Floyd aux États-Unis, les manifestations de soutien à la famille d'Adama Traoré en France ? Est-ce que vous pensez qu'on est peut-être sur la bonne voie ?
Absolument. Je pense que le fait que le débat ait lieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, je pense que ça va être un processus long parce qu'il faut véritablement une éducation, en fait. Il faut une éducation au monde et au monde qui n'est pas seulement le monde blanc, eurocentré, etc. Donc, c'est un processus long, mais qui a commencé depuis longtemps, d'ailleurs, pas depuis cette dernière année, mais cette dernière année, au moins, il y a eu vraiment un débat public autour de ces questions en France. Et ça, je pense que ça a véritablement été une avancée pour moi. Et il faut que ça continue, en fait. Il faut que tout le monde participe à ce dialogue, en fait. Et il faut, de la part des Blancs, une reconnaissance, en fait. Il faut une éducation, ensuite, une éducation aussi aux autres façons de penser et de voir le monde, qui sont tout aussi valides, tout aussi universelles, tout aussi importantes que les façons soi-disant européennes de voir le monde. Donc voilà, donc je pense qu'on est quand même sur une bonne route. Enfin, je l'espère, en tout cas, je reste optimiste par rapport à ça.
Maboula Soumaoro, est-ce que vous partagez l'optimisme de Gauthier Marchais ?
Oui, je pense que je vais rester optimiste parce que ce qui s'est passé en 2020, en fait, a été précédé par des générations et des générations de militants, d'activistes, d'hommes et de femmes politiques, d'historiens, d'intellectuels. Donc, en fait, le moment 2020, si on se penche sur l'affaire Adama Traoré, le combat mené par Assa Traoré, ou ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd et le reste du monde, ça a pu avoir cette ampleur parce qu'il y a eu des siècles de rébellion et de résistance. Là, on est juste à un moment où peut-être que quelques victoires ou quelques débats publics qui sont d'une extrême importance, comme l'a rappelé Monsieur Marchais. Mais en tout cas, cette occurrence 2020, elle a une histoire. Et le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'a rien de naturel. Lui aussi, il a été construit à travers les siècles. Donc, sa déconstruction va évidemment prendre des siècles également.
Merci beaucoup, Maboula Soumaoro, d'avoir été notre invitée. Vous avez publié en 2020 « Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire » aux éditions La Découverte. Merci également à vous, Gauthier Marchais, d'avoir été en ligne avec nous. Votre premier livre, « Le déni blanc, penser autrement la question raciale », vient de paraître aux éditions de l'Aube. On se quitte avec Michael Kiwanuka, « Black man in a white world ».
I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. 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 I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knock.
Black Man in a White World, Michael Kiwanuka. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Bro, Delphine de Dianous et Nicolas Benita avec Didier Cherousse pour les appels. Demain, vous retrouverez à ce micro Céline Guillaume pour une émission sur l'inclusion scolaire des enfants handicapés. En France, inscrire à l'école un enfant handicapé reste un parcours du combattant. Qu'en est-il en Afrique ? Si vous voulez réagir ou témoigner, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Moi, je vous retrouve demain matin à 8h10 temps universel dans Appel sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Dans une minute, le retour de l'info sur RFI.
Autour de la question.
Caroline Lachowski s'interroge avec les plus